Bonjour, Régis Coulange. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3. Et bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous.
Bonjour Franck.
Bonjour Odile, bonjour Régis.
Voilà, alors au sommaire de cette émission, nous allons parler de la Turquie, où la situation nous inquiète beaucoup, on va vous expliquer pourquoi. On va vous parler aussi de notre participation à Regards Migrants, qui se déroule en ce moment sur Digne, et à les Feuilles d'automne, qui se déroulaient à Villars-Colmar. Ensuite, on vous parlera du prix Nobel de la paix de cette année, de la dépêche des actions urgentes, et puis des activités du groupe Dinois. Alors, on va commencer par la Turquie. Alors, on a une bonne nouvelle, mais aussi une mauvaise, hélas. Et alors, Franck va nous lire la bonne nouvelle.
Alors, bonjour encore. Les 10 d'Istanbul sont libérés sous caution. La libération sous caution, Didier Lesser, la directrice d'Amnesty Turquie. Des deux forts défenseurs et une victoire pour les croix humains en Turquie. À l'issue d'une longue journée de procès, la directrice d'Amnesty Turquie et neuf autres défenseurs ont été libérés sous caution. Une importante victoire qui ne doit pas nous faire oublier qu'aucun d'eux n'aurait dû passer un seul jour en prison. Il y a donc une mobilisation mondiale où des milliers de personnes à travers le monde se sont mobilisées ces mois. Il s'agit d'un début. L'ensemble des charges doivent maintenant être abandonnées contre ces défenseurs.
Voilà, donc on a accueilli avec beaucoup de joie la libération de la directrice d'Amnesty Turquie. Mais en même temps, la mauvaise nouvelle, entre autres, c'est qu'on demande toujours la liberté immédiate pour le président d'Amnesty Turquie. Hein, alors la directrice est la salariée qui dirige la section de Turquie et le président, c'est le bénévole qui dirige aussi la section d'Amnesty Turquie. C'est la première fois qu'on emprisonne comme ça des militants des droits humains d'Amnesty, prix Nobel de la paix, je vous rappelle. Vraiment, c'est du jamais vu. Ça fait déjà plusieurs mois que le président est en Turquie. Donc le déni de justice continue. Alors que la directrice et neuf défenseurs des droits humains ont été libérés sous caution, la veille, Taner Kilic a été maintenu en détention sans l'ombre d'une preuve contre lui. Le 26 octobre se tenait la première audience dans le procès, suite à son arrestation le 6 juin dernier. Depuis le 9 juin dernier, Taner est accusé d'appartenance à un groupe terroriste. Alors on a un peu du jamais vu, là, il est maintenu en détention faute de preuves. Le président d'Amnesty Turquie est essentiellement accusé d'avoir téléchargé l'application de messagerie Bilok que le gouvernement turc dit être utilisée par le mouvement Gulen. Problème, aucun élément dans l'acte d'accusation ne vient appuyer l'accusation. Taner nie avoir téléchargé cette application, ce que confirment deux rapports d'experts indépendants. Pendant l'audience, le juge a lui-même reconnu qu'aucune preuve du téléchargement en question n'avait été apportée par la police ou le procureur. Et c'est précisément cette absence de preuves qui a été avancée par le juge pour décider de son maintien en détention, afin de laisser plus de temps aux forces de police pour amener ses preuves. Une situation complètement absurde. Voilà, et en plus, le procureur a demandé à ce que Taner Kilic soit désormais jugé en lien avec les 10 défenseurs des droits humains arrêtés à Istanbul et qui ont été libérés, mais c'est une libération sous caution. Voilà, alors on va écouter un petit peu un membre d'Amnesty International spécialisé dans le pays qui nous explique pourquoi la situation est inquiétante en Turquie au niveau des droits humains.
Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, une tentative de coup d'État en Turquie a avorté. une partie de l'armée turque s'est rebellée et a voulu renverser le gouvernement Erdogan. Cette partie de l'armée turque a été extrêmement violente, puisque plus de 200 personnes sont mortes, 1400 personnes ont été blessées, et des bâtiments officiels, le Parlement, a été attaqué et pour une part ravagé. Donc on peut tout à fait comprendre que les autorités turques, à ce moment-là, et une partie de la population turque, cherchent à faire la lumière sur les auteurs du coup d'État. Le problème, c'est que dès le lendemain, les autorités turques mettent en place une politique de répression qui est allée crescendo pendant plus d'un an.
Ce qui est important de savoir, c'est que dès le soir même de la tentative de coup d'État, c'est les propos de Erdogan qui dit « c'est une bénédiction de Dieu ». Le projet de Erdogan a toujours été de créer ce régime super présidentiel qui lui permettait de se maintenir au pouvoir malgré les déboires qu'il pouvait avoir. Donc son objectif est de rester au pouvoir quelle que soit la situation.
L'état d'urgence instauré en Turquie, le président Erdogan l'a annoncé dans la nuit. C'est une première dans le pays depuis 15 ans, alors que dans le même temps, le grand ménage se poursuit au sein de l'État. Plus de 10 000 personnes auraient été interpellées.
C'est vrai que l'état d'urgence et les premières arrestations concernaient la tentative du coup d'État et visaient, dans un premier temps, essentiellement des gens proches du mouvement güléniste. Nous avons vu très rapidement que des opposants gulenistes, des opposants de longue date dans leur lutte politique, dans leur choix, que ce soit des syndicats, que ce soit des journalistes, que ce soit des intellectuels, donc ça s'est étendu.
Ce sont aujourd'hui plus de 50 000 personnes en Turquie qui sont derrière les barreaux. Ce sont 110 000 personnes qui ont été limogées de la fonction publique. La plupart du temps, sans aucune raison, si ce n'est une suspicion très peu avérée de sympathie avec cette organisation considérée comme terroriste.
Armée, magistrature, renseignement, presse bien sûr, tous les milieux sont touchés et les autorités ferment à tour de bras les journaux, radios et chaînes de télévision qui leur déplaisent.
La Turquie, pour commencer, occupe la 155e place sur 180 dans notre dernier classement mondial de la liberté de la presse. Effectivement, la situation de la liberté de la presse était grave, déjà depuis de nombreuses années, et depuis la tentative de putsch il y a un an, elle est catastrophique. Aujourd'hui, la Turquie est la plus grande prison du monde pour les professionnels des médias, avec plus de 100 journalistes derrière les barreaux. Près de 150 médias ont été fermés en un an par décret, sans autre forme de procès, sous l'état d'urgence en place depuis la tentative de putsch. Les mesures administratives également ciblent les journalistes, près de 750 cartes de presse ont été annulées. Donc c'est vraiment une situation absolument dantesque.
Et enfin, les défenseurs des droits humains ont eux-mêmes été pris pour cible. Plus de 400 associations turques ont été purement et simplement fermées par décret. Ces associations s'occupaient de droits des femmes, de droits à l'éducation, d'aide humanitaire aux réfugiés ou aux personnes les plus pauvres, ou étaient des organisations de défense des droits des personnes. Quand on s'attaque aux défenseurs des droits humains, on s'attaque aux dernières personnes qui dénoncent ce que vivent aujourd'hui des dizaines et des centaines de milliers de Turcs, réduits au silence par un gouvernement Erdogan de plus en plus autoritaire et qui s'enfonce dans une spirale de répression absolument totale.
La mobilisation est une chose importante. Les gens doivent savoir ce qui se passe en Turquie. Et c'est difficile de s'imaginer, en fait, l'ampleur de la tragédie à laquelle on assiste dans ce pays. Donc il faut continuer à informer. Ça, c'est déjà quelque chose. Et le plus la mobilisation est large, le plus de pression on aura sur les gouvernements pour qu'ils agissent.
Donc ce que nous demandons à Amnesty International, c'est assez simple, finalement. C'est la libération de l'ensemble des prisonniers d'opinion et des défenseurs des droits humains, des journalistes, des personnes qui n'ont strictement rien à voir avec un quelconque crime, avec une quelconque organisation criminelle, qui tout simplement demande des comptes au gouvernement Erdogan pour que la Turquie respecte ses engagements internationaux en matière de respect des droits humains.
Voilà pour la Turquie, donc on est très vigilant sur ce pays. Alors, le groupe dinois d'Amnesty International a participé à, et participe à deux opérations culturelles qui se passent l'une à Digne et l'autre qui s'est passée à Villars-Colmar. La première à Digne, donc, c'est Regard Migrant. Alors, bien sûr, on participe puisqu'on a une campagne justement sur l'accueil, des, l'accueil de ces personnes. Et les feuilles d'automne, le thème, c'était Mouvement des hommes, migration des idées. Et Amnesty International, c'est ça, c'est migration des idées, hein, cette idée de, que des individus peuvent défendre d'autres personnes dont les droits sont bafoués partout dans le monde. C'est une idée qui est venue d'Angleterre et puis qui a migré. Et maintenant, il y a 7 millions de personnes qui participent aux actions d'Amnesty dans le monde entier. Et voilà, donc ça, ça allait bien avec notre association. Alors on a, bien sûr, il y a des membres du groupe qui participent à l'accueil des migrants sur Digne. Et en même temps, ce qu'on a organisé, c'est deux conférences de Raquel Tiercelin sur les réfugiés pendant la guerre d'Espagne. Et donc on a rappelé, ce qui était intéressant, c'est de rappeler que le problème des réfugiés n'est pas récent. Hein. Il y a eu déjà des vagues de réfugiés, notamment pendant la guerre d'Espagne. Et puis ensuite, la Seconde Guerre mondiale, n'en parlons pas, toutes les migrations qui se sont faites. Et puis ce qui était aussi intéressant, c'est que cette conférence portait sur les enfants. Et souvent, on les oublie, et pourtant, c'est les premières victimes des violences et des guerres. Hein. On pense à tous ces enfants qui vivent sous les bombes dans les villes, et puis qui sont obligés de fuir. Voilà. Donc, Raquel Tiercelin, qui a vécu elle-même, puisqu'elle est aussi une enfant de la guerre, qui a vécu cet exode vers la France, on l'a interviewée et on va l'écouter.
Raquel Tiercelin-Merias, vous avez traduit un livre hommage aux enfants de l'exil qui s'appelle Paroles orphelines, écrit par Véronica Sierra Blas. En quoi c'était important pour vous de traduire ce livre, puisque vous avez été vous-même une enfant de l'exil lors de la guerre d'Espagne?
Alors c'était important pour moi, évidemment, comme vous dites, parce que j'ai quitté l'Espagne en janvier 1939 et que, en plus, je me suis perdue. Je n'ai retrouvé mes parents que quelques mois plus tard. Donc, je suis évidemment... Ah bon, après, j'ai fait ma vie. J'ai épousé un Français. Je suis devenue Française. J'ai fait toute ma carrière universitaire dans le secondaire et ensuite à l'université. Et d'ailleurs, je me suis consacrée uniquement à la littérature hispano-américaine parce que mes parents étaient retournés en Espagne. Et comme c'était le franquisme pur et dur... Ils étaient quand même un peu surveillés, disons, par la police. Donc, je ne pouvais pas, moi, personnellement, me pencher sur les histoires de la guerre civile. Et ce n'est qu'après la mort de Franco que j'ai pu, effectivement, publier, assister à des colloques et des congrès en Espagne et récupérer, si vous voulez, toute mon histoire perdue, quoi.
Vous avez vécu cet exil combien de temps ?
Je l'ai vécu de 1939 à 1947. Parce que nous avons été évidemment pris dans la Deuxième Guerre mondiale. Et heureusement, mes parents et moi avons survécu sans trop de dommages. Mais quand Franco, après, a voulu récupérer tous les Espagnols qui étaient partis, il ne faut pas oublier que bon, là, on va s'occuper uniquement du problème des enfants qui sont, comme disent les historiens, un peu les oubliés de l'histoire. Il est temps qu'on y fasse un peu référence et attention. Vous savez qu'en France même, il y a eu 500 000, nous étions 500 000 réfugiés et que beaucoup de personnes sont parties au Mexique, en Amérique latine aussi, évidemment, parce que c'était des pays de langue espagnole, mais surtout le Mexique qui a ouvert ses portes très fraternellement, je dois dire, aux républicains espagnols et donc beaucoup étaient des peintres, des écrivains, des universitaires, des scientifiques. Donc Franco a tout fait pour que tous ces exilés rentrent, parce que l'Espagne était quand même exsangue, pas seulement économiquement, mais également intellectuellement. Il se passait vraiment plus grand-chose dans l'Espagne franquiste. Beaucoup de personnes, évidemment, n'en sont pas rentrées, ou celles qui sont rentrées, vu la situation, sont reparties en exil. Et mes parents, eux, malheureusement, étant donné leur situation économique et de santé, ont dû rester à Madrid. Et moi, dès que j'ai pu, dès que j'ai eu mon bac français, j'ai eu mon bac français à Madrid, en poche, parce que j'ai compris tout de suite le problème et la situation. Je suis revenue en France faire mes études et j'y suis restée.
Et aujourd'hui, donc, vous avez traduit ce livre. Est-ce que c'est un hommage ? Quel est le sens de ce livre ?
En 99, l'université espagnole a organisé une série de manifestations dans toute Espagne pour commémorer la fin de la guerre civile. Parce que ça n'avait pas pu se faire avant à cause des tensions politiques, la transition vers la démocratie, etc. Donc ça a été un grand moment. C'était, vous rendez compte, le 60e anniversaire de la fin de la guerre. Et là, je suis allée à Madrid et puis à Salamanque, à l'université de Salamanque. Et là, j'ai fait la connaissance de l'auteur Verónica Sierra Blas, qui est une jeune historienne, qui a fait toutes ses recherches et ensuite sa thèse sur la transmission familiale, les lettres, les journaux intimes, etc., du XXe siècle. Et donc, ses études l'ont menée à Salamanque, où sont regroupées toutes les archives de la guerre civile. Tout est regroupé à Salamanque. D'ailleurs, il y a quelques années, il y a eu un problème parce que les Catalans voulaient les récupérer. Alors, je ne sais pas où ça en est maintenant. Bref, et en faisant les recherches dans ces archives, elle est tombée sur des paquets de lettres écrites par des enfants en exil en Russie. Il y en avait plus d'une centaine. Donc, elle a récupéré tout ça, ou elle a photocopié, je ne sais pas comment elle a fait, et elle a bâti son livre, ce livre qui est d'ailleurs sa thèse de doctorat, sur ce sujet. Et c'est passionnant, c'est absolument passionnant. Donc, ça a été publié à Madrid en 2009. Elle m'avait invitée d'ailleurs à Madrid. Elle est très 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 sympathique, j'aime beaucoup, c'est une grande amie. Et puis un jour, elle m'a demandé si je voulais aider à la traduction, parce que c'est un gros bouquin, hein. C'est un gros livre avec beaucoup de notes, c'est fait par une historienne, c'est fait par des professionnels, pour des professionnels aussi en Espagne. Et elle m'a demandé si je voulais participer à la traduction avec une enseignante de l'université de Rennes, Christine Rivalan, que j'ai rencontrée, et on a fait la traduction toutes les deux. Et ça a été vraiment pour moi un moment très, très, très émouvant, parce qu'au début, j'étais complètement bloquée, je ne pouvais pas regarder même le livre. Je faisais un détour dans ma chambre pour ne pas le voir. Et puis finalement, je m'y suis mis et voilà. Et le livre est sorti en France, donc aux presses universitaires de Rennes, l'année dernière, en 2016.
Alors j'imagine que ça a brassé beaucoup d'émotions, ça a dû faire remonter en vous des souvenirs de votre enfance.
Énormément, énormément. Parce que nous avons quitté, bon, mes parents et nous habitions Madrid quand la guerre s'est déclarée le 18 juillet 1936. J'ai pas encore 5 ans. Et vous savez que les troupes franquistes sont arrivées, ont fait le siège de Madrid très vite. Et dès l'automne, dès le mois de novembre, le gouvernement républicain, puisque c'était une rébellion contre un gouvernement légitime, etc., républicain légitime, le gouvernement, vu la difficulté de rester à Madrid, a décidé de se replier sur Valence, sur la côte méditerranéenne. Donc nous sommes partis, mes parents et moi, à Valence, et il y a un épisode, c'est que à l'époque, nous n'avions pas le téléphone, il n'y avait pas le téléphone dans les familles. Et mon père a téléphoné à ma mère dans l'après-midi, chez la concierge, en lui disant « Écoute, il y a une voiture qui va venir vous chercher, Raquel et toi, prends pas de bagages, parce que vous partez à Valence provisoirement. Il y a des gens qui vont venir. Ne prends pas de bagages parce que l'auto est pleine, il y a d'autres personnes, et puis on va bientôt revenir. » Et quelques jours après, d'ailleurs, se sont produits les premiers bombardements allemands sur la ville de Madrid, et nous avons su après que notre appartement avait été complètement détruit. Donc tout ça, évidemment, ça remue énormément de choses. Alors à Valence, ma mère, qui était aussi très militante, s'est occupée d'organiser les femmes pour le ravitaillement, pour les écoles, pour tout un tas de choses. Et un jour, il y a une expédition d'enfants Il y a eu deux premières expéditions d'enfants qui sont partis pour les éloigner des bombardements, pour sauver leur vie, qui sont partis du Pays Basque et le lendemain, enfin un jour près, du Pays Basque et de Valence. Et ma mère m'a raconté, mais 50 ou 60 ans après, un jour, qu'à Valence, elle était du Parti communiste, mon père aussi, elle a vu Dolores Ibárruri, la passionnaria, qui organisait un voyage vers l'Union soviétique. Je voudrais envoyer Raquel, je voudrais envoyer Raquel. Et il semblerait que passionnaria lui dit, ta fille, tu la gardes avec toi, tu la gardes avec toi, tu ne l'envoies pas. Donc ça remue évidemment beaucoup de choses.
Vous avez fait une conférence donc à la médiathèque de Digne-les-Bains très récemment. Ce soir, vous allez à Colmar-les-Alpes. Qu'est-ce que vous allez y faire ? Présenter le livre aussi ?
Tout à fait. Je vais présenter le livre puisque leur festival, c'est sur les mouvements des hommes, migration des idées. C'est tout à fait dans notre... En plus, je suis militante d'Amnesty International et Régis va en parler ce soir, hein, beaucoup. C'est pas étonnant que je sois à Amnesty International avec tout ce que j'ai vécu auparavant. Donc ce soir, je vais faire un petit peu ce que j'avais fait ici, à Digne, qui a été très bien reçu, je crois. Il y a eu beaucoup de questions après. C'est-à-dire un peu replacer la guerre d'Espagne dans son contexte, parce que les Français ne connaissent pas très très bien. On voit pas quelles étaient les causes et ensuite quels ont été les événements de cette guerre qui a été absolument terrible. Il y a eu quand même 1 million de morts pour une population de 24 millions d'habitants, c'est quand même beaucoup, et qui a désorganisé la société espagnole pendant plusieurs générations, parce que beaucoup des personnes qui sont parties, comme moi, ne sont plus jamais revenues pour des raisons diverses. Donc c'est quand même important de replacer ça dans le contexte historique de l'époque, parce qu'après, en 1939, il ne faut pas oublier que nous avons tous été pris par la Deuxième Guerre mondiale, qui a encore été un grand chamboulement européen et même mondial. Et puis, en 1946, ça a été la fin de la guerre, une sorte de stabilisation, et qui a conforté d'ailleurs Franco dans son gouvernement dictatorial, disons.
Alors aujourd'hui, les enfants de la guerre, il y en a toujours, des enfants qui fuient leur pays. Est-ce que vous gardez toujours espoir par rapport à ces situations ?
Espoir toujours. Sinon, on ne travaillerait pas. Et si je milite à Amnesty, c'est pour ça aussi. C'est pour essayer d'apporter notre pierre blanche aux événements et essayer d'agir sur les forces destructrices. On essaye. Et il y avait quelqu'un qui disait, si une fois par jour, tu n'as pas essayé d'œuvrer dans ton chemin, tu ne sers à rien. Donc, il faut continuer à servir à quelque chose.
Et vous avez 85 ans et vous continuez d'être une militante active.
Ah, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je dois dire que ma mère m'a fait l'honneur de ne mourir qu'à 100 ans. Je lui ai chez moi les dernières années. Et vraiment, j'ai beaucoup de chance parce que, si vous voulez, j'ai été très aidée par mes parents dans mon évolution mentale et intellectuelle et militante. Et elle était très contente de savoir que je militais.
Raquel Tiercelin, Merias, merci beaucoup pour votre témoignage.
Voilà, alors maintenant, on va passer une chanson de Jean-Guy Coulanges, qui est aussi mon cousin, et en fait, qui avait fait un disque il y a longtemps sur la résistance, et il a fait une chanson qui s'appelle « Chanson des villes », qui parle justement des bombardements des villes, et pensant aux enfants, le traumatisme que cela engendre sur ses enfants. Alors, j'ai discuté avec un historien qui m'a dit qu'en fait, le premier bombardement d'une ville, c'était pendant la guerre de 14-18 par les Allemands. Et en fait, en 36, pendant la guerre d'Espagne, les Allemands ont essayé leurs avions pour bombarder les villes. Et voilà, donc, chanson des villes.
Mes villes en rang, mes villes en sang, mes villes fusillées, mes villes baïonnées, ça fait si mal, ça fait si mal. C'est Guernica, c'est Varsovie, Hiroshima ou c'est Paris. C'est Alésia, du sang partout. C'est Stalingrad, c'est bien bien faux. C'est bien bien faux. Mes villes ouvertes, mes villes inertes, mes villes bombardées, mes villes cloisonnées. Ça fait si mal, ça fait si mal. Milliers d'otages dans le silence. C'est toi Carthage, c'est toi Numance. C'est entre mon ce requiem, un autre nom, Jérusalem. Jérusalem. Mes villes en armes, mes villes en larmes, mes villes mutilées, mes villes mitraillées. Ça si mal. Et les villages, oh mes amours, tant de carnage comme Oradour. Quels sont ces cris, ces trahisons, oh mes amis, oh ma maison, oh ma maison. Ma ville orgueil, ma ville en deuil, un homme l'a sauvée. Ma ville délivrée, n'oubliez pas, n'oubliez pas.
Voilà, alors maintenant, nous allons parler du prix Nobel de la paix. Voilà, Franck.
Alors que nous nous interrogeons souvent sur le sens de ce que nous faisons, de notre engagement, de nos résultats, voire même parfois de la vanité de nos combats au regard du monde dans lequel nous sommes, je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous mon émotion lorsque j'ai appris aujourd'hui la rémission du prix Nobel à la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, exactement 20 ans après le prix Nobel de la campagne internationale pour interdire les mines antipersonnelles.
Voilà, alors c'est la Sylvie Brigaud-Villain hein, qui a fait un éditorial, qui est en fait la directrice d'Amnesty International France. Elle continue. Si Amnesty n'est pas membre de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, nous avons soutenu son travail et ses objectifs depuis longtemps, publié des déclarations communes à différentes occasions en amont des négociations du traité d'interdiction des armes nucléaires qui a été adopté en juillet dernier. Par ailleurs, à titre personnel, je suis administratrice de la branche française d'ICAN depuis 2013. En juillet dernier, 122 pays ont adopté le texte du traité d'interdiction des armes nucléaires. Depuis, 53 l'ont signé et 3 l'ont ratifié. Le prix Nobel de la paix attribué aujourd'hui à ICAN est un symbole fort montrant l'importance historique de ce traité, la nécessité de le soutenir afin d'assurer sa mise en œuvre dont l'objectif final est le désarmement nucléaire complet.
Ce prix Nobel pour ICAN est aussi le symbole de la reconnaissance du rôle et de l'importance de la société civile comme acteur de changement dans le monde aujourd'hui. 20 ans après, la campagne internationale pour interdire les mines antipersonnelles, ma première famille militante dès 1994 et que j'ai eu l'honneur de diriger à partir de 2006, une seconde coalition d'ONG mondiale et organisée, travaillant en partenariat avec les États, le CICR, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et de Croix-Rouge, les Nations Unies se va récompenser pour avoir réussi à imposer et faire triompher l'agenda en faveur de la sécurité humaine énoncée des États ou de certains industriel et financier, dont les préoccupations sont bien faites, sont bien loin du maintien des emplois qu'ils offrent. En reparenthèse, un argument souvent entendu dans nos campagnes et plaidoyer.
Tout le travail commence seulement pour se traiter, mais comme le disait mon ami et collègue au syndicat, Jean-Marie Collin, les parlementaires et autorités ne peuvent plus nous ignorer à présent. Les choses vont évoluer, on va pouvoir travailler ensemble. Ils vont devoir s'interroger sur la réalité de la dissuasion nucléaire. Tout cela alors que la menace d'une possible explosion nucléaire est plus présente que jamais avec l'escalade Corée du Nord-États-Unis qui démontre avec puissance que la seule façon d'être protégé de ces armes pour toujours est de les interdire et de les détruire.
Cette nouvelle est tombée sur mon téléphone alors que j'ai visité une exposition déchirante de l'AFP de photoreporteurs syriens sur le conflit, présenté dans le cadre de la 24e édition du prix Bayeux-Calvados, qui correspondant de guerre doit amnistier les partenaires. Il n'est pas facile dans ce monde de se réjouir, de célébrer les succès et de les mettre en perspective. Et pourtant, célébrer les succès petits écrans est un acte primordial, car c'est précisément ce qui permet d'éclairer, de continuer la route et trouver l'inspiration quand l'espoir semble perdu.
Voilà, on tenait à parler de ce prix Nobel de la paix qui nous a fait bien plaisir. Alors maintenant, on va écouter Moustaki en Le Métèque.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai, ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Voilà, on s'en lasse pas de cette chanson. Alors maintenant, nous allons vous parler des actions urgentes. C'est une forme d'action d'Amnesty International qui consiste à agir, mais de façon urgente, pour des gens qui sont soit torturés, soit qui risquent d'être exécutés incessamment sous peu. Et donc, nous recevons par mail ces actions urgentes, et nous avons un modèle de lettre, et puis les autorités à qui envoyer cette action. Et nous imprimons ces lettres, nous les personnalisons et nous les envoyons rapidement. Alors des fois, c'est tellement rapide qu'on ne fait pas un courrier papier, mais on va envoyer un mail plus rapidement, si on a aussi l'adresse mail. Et c'est une action que n'importe qui peut faire. Si ça vous intéresse, on a ce qu'on appelle un réseau d'actions urgentes, c'est-à-dire des gens qui acceptent de faire une ou deux actions par mois. Et donc, on leur envoie une ou deux actions et ils ont un courrier imprimé, à signer et à envoyer. Voilà, alors c'est une forme d'action qui marche. On obtient des résultats et nous allons d'ailleurs vous dire quelques résultats que nous venons d'avoir récemment. Franck, si tu veux commencer.
Bien, je vais commencer par le Bélarus, où Mourad Ariev, renvoyé du Bélarus, où il avait tenté en vain de demander asile, a été remis à des agents russes des forces de sécurité le 9 juin 2017, puis libéré sous caution, avec interdiction de quitter la Tchétchénie. Amnesty International continue à suivre l'évolution de la situation et interviendra si nécessaire. À toi, Régis.
Alors, en Chine, Yua Efeng et Li Zhao et Su Heng ont été libérés sous caution le 28 juin 2017. Ils avaient été arrêtés alors qu'ils enquêtaient sur les conditions de travail dans les usines Huajuan, qui produisent entre autres des chaussures pour la marque d'Ivanka Trump. Ils resteront sous surveillance policière étroite pendant les 12 prochains mois. Yua Efeng a exprimé ses sincères remerciements à tous les militants d'Amnesty International qui ont fait part de leur soutien pendant ma détention. C'est votre soutien qui a renforcé la détermination de ma famille. Merci beaucoup.
En Bahreïn, Nader Abdulrahman, un prisonnier d'opinion, a été libéré le 30 juin 2017. Après avoir purgé une peine de 6 mois de prison, Amnesty International continuera de suivre la situation.
À Cuba, le 3 juillet, Aneris Miranda Leva, sa sœur jumelle Aderis Miranda Leva et leur frère Fidel Manuel Batista Leva, tous défenseurs des droits humains, ont abandonné la grève de la faim qu'ils avaient débutée le 8 juin pour protester contre les harcèlements et les intimidations dont ils faisaient l'objet et contre la menace de révocation de leur libération conditionnelle.
En Iran, enfin, Ridwan Karimi, réalisateur membre de la minorité kurde, est emprisonné depuis le 23 novembre 2016 et est libéré le 19 avril 2017. Amnesty International considérait Kerouan Karimi comme un prisonnier d'opinion, incarcéré uniquement pour avoir exercé ses droits d'expression et d'association. L'organisation continuera donc de surveiller également cette affaire.
Voilà, donc on ne va pas vous lire toutes les bonnes nouvelles qu'on a reçues, mais c'est pour vous montrer que notre action marche. Hein, si on est, et plus on sera nombreux à envoyer des courriers, mieux on obtiendra des résultats, de bons résultats. Voilà, alors n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à contacter le groupe d'Amnesty. Nous serons sur le marché, sur le boulevard Gassendi, le 25 novembre de 10h à 12h30, et puis le 9 décembre à la médiathèque. Hein, je vous en reparlerai. Donc, si ça vous intéresse de participer aux actions urgentes, d'envoyer un ou deux courriers par mois, vous serez les bienvenus dans notre réseau. On va maintenant écouter à nouveau Jean-Guy Coulanges dans une chanson « Chant d'espoir ».
Car nous marchons ici, mes frères, du même pas que les absents. Quand nous tiendrons dans notre main le premier morceau de pain blanc, quand je tiendrai dans mes deux mains ton premier visage d'enfant, quand nous verrons sur les chemins passer la fille et la moisson, alors nous marcherons, mes frères, du même pas que les vivants. Alors nous marcherons, mes frères, du même pas que les vivants. Quand toute une vie prisonnière pourra être mise en chanson, quand nos vergers pleins de lumière auront des fruits dans les saisons, quand nous mettrons dans nos prières les maudits noms de nos prisons, alors nous marcherons, mes frères, du même pas que les vivants. Alors nous marcherons, mes frères, du même pas que les vivants.
Voilà, alors nous allons maintenant vous parler des activités du groupe d'Inois, d'Amnesty International. Alors Franck et moi, nous revenons là juste à l'instant, avant l'émission, du lycée du Sacré-Cœur, où nous avons rencontré cinq jeunes qui sont partants pour donner de leur temps à notre association. Donc ils vont, pendant leur année scolaire, participer à nos activités diverses et variées, notamment peut-être prévoir des ciné-débats sur les thèmes des droits humains dans leur lycée. Voilà. Donc on est très content qu'il y ait des jeunes qui nous rejoignent pour cette année. Demain, nous allons au lycée Pierre-Gilles de Gênes et nous allons rencontrer des BTS sur le thème de la liberté d'expression et d'opinion. Voilà, donc on va leur parler d'Amnesty International, bien sûr, et puis de l'importance de la liberté d'expression, puisque Amnesty International a été créé pour défendre la liberté d'expression, puisque je vous le rappelle, c'est un avocat anglais qui s'est élevé contre la condamnation à 7 ans de prison de 2 étudiants portugais qui avaient levé leur verre à la liberté pendant la dictature. Voilà, et c'est comme ça qu'Amnesty a été créé. Donc, c'est très lié, bien sûr, à la liberté d'expression. Ensuite, le mardi 7, alors ce n'est pas du tout Amnesty International, mais je vous rappelle que mardi à 18h à la médiathèque de Digne, il y a une conférence de Guy Raymond sur la retirada, les républicains espagnols dans les Basses-Alpes. Donc, c'est une conférence qui fait écho à celle de Raquel Tiercelin qui nous parlait des enfants réfugiés pendant la guerre d'Espagne. Et celle-là, c'est beaucoup plus local. Ce sont les républicains espagnols, femmes, hommes, enfants, qui sont arrivés dans les Basses-Alpes. Le samedi 25 novembre, de 10h à 12h30, nous installons un stand d'Amnesty sur le boulevard Gassendi. Donc on est un petit peu en dessous de la maison de la presse. Vous pourrez venir signer nos pétitions et puis acheter nos calendriers, nos agendas. Et nous avons aussi beaucoup d'albums pour enfants qui ont pour thème la liberté, les droits humains, le respect des autres. Voilà. Et ça peut faire de très beaux cadeaux de Noël intelligents. Voilà, pour les enfants de tout petit jusqu'aux ados. Et puis, le samedi 9 décembre, Nous serons dans le grand couloir de la médiathèque de Digne pour notre opération mondiale de 10 jours pour signer. Ça sera de 10h à 17h, aux heures d'ouverture de la médiathèque. Et là, donc, vous aurez les 10 cas qui ont été choisis cette année. 10 cas au niveau mondial. Hein, donc, on va essayer partout en France, mais partout dans le monde, hein, dans tous les pays où Amnesty est présent, les groupes
se réunissent
pour obtenir un maximum de signatures. Alors, ça dure 10 jours, donc on peut signer en ligne sur le site d'amnesty.fr, mais aussi on peut venir. Donc, à Digne, ce sera le 9 décembre, 10 jours pour signer. Vous aurez les 10 cas qui sont présentés de violation des droits humains, qui sont dans différents pays, hein, dans 10 pays différents. Et vous pourrez en même temps signer donc, pour ces personnes et puis acheter aussi des calendriers, des agendas, des albums et puis se renseigner sur notre mouvement. Voilà, je sais que les jeunes, l'antenne jeune du lycée Pierre-Gilles Eugène participera aussi à ces 10 jours pour signer. Hein. L'année dernière, dans le lycée, ils avaient obtenu 2000 signatures, ce qui est vraiment énorme. On va voir cette année ce qu'ils vont faire. Et voilà, donc samedi 9 décembre, venez nombreux à la médiathèque de 10h à 17h pour signer nos pétitions. On va terminer en musique avec Moustaki.
Thank you. Tu me diras que j'ai tort de chanter la révolution et la liberté, que tout ça ne sert à rien, que ce n'est pas encore pour demain. Et pourtant dans le monde, d'autres voix me répondent. Et pourtant dans le monde, tu me diras que j'ai tort de rêver en croyant vivre la réalité, qu'il faut rester les yeux ouverts et regarder tout ce qui va de travers. Et pourtant dans le monde, d'autres voix me répondent. Et pourtant dans le monde, tu me diras que j'ai tort de crier et de clamer mes quatre vérités, qu'il vaut mieux se taire ou mentir, surtout savoir garder le sourire. Et pourtant dans le monde, d'autres voix me répondent. Et pourtant dans le monde, tu me diras que j'ai tort de parler de l'amour comme s'il existait, qu'il ne s'agit que d'un mirage, une illusion qui n'est plus de mon âge. Et pourtant dans le monde, d'autres voix me répondent. Et pourtant dans le monde, tu me diras que j'ai tort ou raison, ça ne me fera pas changer de chanson, je te la donne comme elle est, en faire ce qui te plaît. Et pourtant dans le monde, d'autres voix me répondent. Et pourtant dans le monde, et pourtant dans le monde, d'autres voix me répondent. Et pourtant dans le monde, thank you.
down by the river, by the boat, where everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. When by the water we drink to the dregs, look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you've never been by the riverside. Down by the water, the riverbed, somebody calls you, somebody says, swim with the current and float away. Down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn. Guess I hear just every sound.